plaît.
Allez-y.
Page 44. Ah non, je...
Page 44. Oui, à quel endroit? En haut de la page.
Oui. Ma religion.
Grotzing.
Un homme de nègre.
Un nègre.
Ah oui, alors t'es un nègre. Bon, on va le voir ça un petit peu après. Nègre, ça vous fait penser à quelque chose? Nègre. Ça fait penser à nègre. Ouais. Donc le mot nègre de negro, hein, de negro en latin, donc le noir, Niger.
Ça, c'est un lieu de quoi racisme ?
Alors, on va essayer de comprendre, hein, on ne peut pas dire comme ça tout de suite, hein, mais ce qu'on peut dire tout de suite, au moins en français, c'est que ce mot nègre n'existe pas, on ne le trouve pas dans le dictionnaire, ni le petit ni le gros, et donc il s'agit d'un mot nouveau ou d'une déformation d'un mot qui existe déjà. Alors vous connaissez beaucoup de cas de déformation orale de mots qui existent déjà. C'est vrai que oralement on dit beaucoup plus cat que quatre. Alors peut-être vous faites très attention à dire quatre, mais si vous écoutez des Français qui parlent vite comme ça dans la conversation, ils disent quatre. J'étais avec des amis, on était quatre, on est allé au restaurant, bon. Voilà. Et en effet, ce quatre, c'est une façon orale d'aller plus vite, hein, d'abréger le mot quatre. Et on a un petit peu le même phénomène puisque c'est le R, hein, le son re, qui peut facilement tomber dans ce cas-là. Et donc, neg fait penser à nègre. Oui, voilà, c'est ça. On va le voir à la page 42 beaucoup plus évidemment, hein, avec l'expression telle qu'elle est écrite dans le restaurant, les nègres et les piafs. On va le voir tout à l'heure.
C'est un mot négatif avec quel rapport?
Je pense, oui. Oui, oui. On va essayer de les analyser. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur les pages d'avant, je vais passer à aux pages d'après. Dans la présentation, dans l'exposition qu'on a vue déjà depuis deux semaines, nous sommes arrêtés juste au début de l'explication concernant, si on peut dire, le représentant du frondisme. Alors, frondisme, frontisme, qu'est-ce que c'est que ces mots qui se ressemblent? Alors, d'abord, ce sont des mots en isme ou en iste, c'est-à-dire des groupes de personnes qui appartiennent à une idéologie, un rassemblement avec une doctrine ou des idées directrices. De la même façon que l'on dit le socialisme, le capitalisme, le nantokaïsme, qui signifie peut-être plus simplement être partisan de, hein, être du côté de. Alors c'est vrai que si vous êtes communiste ou si vous êtes capitaliste, évidemment ça coupe le monde en deux parties. Mais vous pouvez également être sarkozyste, même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, parce que Sarkozy n'a pas fait de doctrine politique au sens des socialistes ou des capitalistes ont pu le faire. Donc être partisan de. De cette façon, on pourrait dire d'ailleurs, en étant le fanatique, hein, comme on dit aujourd'hui, d'un écrivain par exemple, ou d'un musicien, hein, on pourrait être de ce côté-là plutôt que d'un autre. Ce n'est pas nécessairement politique. Ensuite, front, Ça, c'était la première occurrence, je crois, page 35. Hein, ou en tout cas, c'est la présentation de deux frondistes à la page 35, au milieu de la page. Alors, le mot frondiste en français est connu de tout le monde. Mais pour tout le monde, ça n'a pas le même sens. Le front, c'est d'abord la partie de la tête qui se trouve à l'avant, en haut de la tête. Et à cause de cette position, ou peut-être que c'est juste à côté du cerveau, on a un sens de front qui veut dire ensemble de personnes qui se mettent en avant dans une action, dans un combat politique. Donc c'est l'idée de en avant, hein, d'être devant. Si on se réfère à l'histoire pas trop ancienne, en France, on a connu le Front populaire. Tout le monde en a entendu parler. C'est en 1936, l'association de tous les partis de gauche, d'extrême gauche ou du centre un peu, pour remporter les élections contre la droite classique qui existait déjà. Le Front populaire a remporté les élections de 1936 avec Léon Blum et installé en France un régime politique que l'on dit socialiste, mais qui s'est révélé assez mauvais gestionnaire de la situation, ou bien face à une situation vraiment, vraiment très, très, très difficile, que ce soit avec les Espagnols, hein, de la Révolution espagnole qui était commencée, et le gouvernement français, en principe socialiste, n'a pas été exemplaire, hein, du point de vue humain, simplement même humain-humaniste, avec les Espagnols. Et puis par la suite, dans les diverses négociations politiques internationales, le Front populaire n'a pas vu venir le danger qui était bien sûr en Allemagne avec la montée du nazisme, comme on dit. Donc voilà, donc encore un isme, nazisme. Plus près de nous encore, il existe encore un parti politique français qui s'appelle le Front National, qui est dirigé et fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. C'est un nom que vous avez dû entendre comme un des hommes politiques français qui se fait entendre régulièrement pour des choses plus ou moins sérieuses, hein, et pas toujours de bonne qualité. Et donc ce terme de front de quelque chose, est employé dans beaucoup de pays francophones comme nom de parti politique, de groupement, d'association, pour, en général, lutter contre quelque chose. Et l'idée de en avant, hein, de se placer en avant d'un combat, correspond en fait à un groupement de personnes qui a l'intention de mener une certaine action. Une action qui peut être assez dynamique, voire violente dans certains cas. Et si on s'appelle front de quelque chose, ça signifie donc qu'on est regroupé pour une action assez musclée, assez forte, contre quelque chose. Sinon, on peut s'appeler parti, groupement, ligue. Bon, il y a d'autres termes comme ça qui n'ont pas cette connotation de mise en avant et d'action. Donc, ici, dans frondisme. Il y a eu, avant la Seconde Guerre mondiale, un parti qui s'est appelé frontiste, donc avec un T, hein, pas avec un D, frontiste. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de relation, parce que c'était un parti plutôt de gauche, plutôt, enfin, disons, pas très dynamique, mais un des deux dirigeants de ce parti est devenu pendant la guerre un homme d'extrême droite. Donc il est passé du côté gauche où il a fondé ce parti frontiste il est devenu un homme d'extrême droite à la suite des changements politiques dus à la guerre. Je crois qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont changé de côté ou de vision politique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a eu dans les deux sens. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont restés à la place où ils étaient, sans changer. Voilà donc pour ce isme et iste, et puis un petit peu d'histoire.
Fondisme, ça me fait penser aussi à la Fronde au XVIIe siècle.
Certes, mais je pense que pour la plupart des Français, la Fronde au sens historique, donc du XVIIe siècle, n'est pas connue.
Ah oui.
Je crois que, je ne peux pas parler pour l'ensemble des Français, mais l'idée que j'ai de la connaissance, de la culture des Français, s'arrête un petit peu à la Révolution.
Ouais.
Peut-être à cause de l'école, d'ailleurs. C'est pas de leur faute. Mais, alors, en effet, si on veut aller plus loin dans l'histoire, il y a la Fronde comme rassemblement assez mouvementé de personnalités plutôt contre le roi, ou en tout cas contre Mazarin, parce que contre le roi, il fallait pas le dire. De toute façon, tout le monde était pour le roi. Le petit Louis XIV, il est pas méchant, donc on peut pas être contre lui. Vers 1648, 1650, 51. Il y a la première fronde, il y a la deuxième fronde, il y a cette période. Mais en effet, je pense que les Français ne connaissent pas. Ceci dit, ça va tout à fait dans le sens de ce mouvement d'action. Et donc là, assez violente, déjà au XVIIe siècle. Alors, tel qu'il nous est présenté ici à la page 35, ce frondisme avec ses frontistes se présente comme un parti de représentation du peuple, c'est-à-dire populaire au sens neutre, disons. Et ça nous est apporté, je crois que c'est là qu'on s'est arrêté la semaine dernière, avec la progression entre deux frondistes, et puis ils sont 3, 500, 1000, ils sont légions des millions. Donc on voit que il y a une sorte d'abord d'opposition entre deux personnes et des millions, et en même temps cette opposition forme par la progression une sorte d'amalgame. C'est-à-dire que deux et des millions, c'est à peu près pareil. Et pourquoi c'est pareil? C'est parce qu'ils sont identiques. Ils sont presque tous pareils. Alors cette notion d'identique ou d'identité est très importante parce que, d'abord, elle s'oppose à ce que nous avons déjà vu avant, qui est la diversité. Et on en a beaucoup parlé la semaine dernière, c'était la diversité des noms. Les noms que nous avons eu à affronter dès le début, ces noms bizarres, nous ont apporté l'idée qu'il y a dans cette population des gens très divers, d'origine très diverse, et qui sont donc très particuliers, chacun différent de l'autre par son origine ou son histoire. Inversement, du côté frondiste, ils sont tous pareils. Alors peut-être qu'en réalité chacun est différent, mais le fait d'être frondiste les transforme, les rend tous identiques. Peut-être parce que ils s'habillent de la même façon ou se comportent de la même façon, on le verra plus tard. Comment ce nombre peut-il s'expliquer? Leur nombre s'explique par des facteurs économiques et sociaux, mais il faut avoir le courage de compléter l'explication en disant que quelque chose d'instinctif, inscrit sans doute dans le patrimoine génétique de l'espèce, pousse les grandes masses humaines à cautionner ce qui promet la désolation et le carnage. Un élan mystérieux anime collectivement les esprits et les dévoie vers le pire. Alors, ces deux phrases nous proposent quelque chose d'assez général, qui ne concerne, à mon avis, pas seulement les habitants de cette ville de Champ Rouge, ou ce monde, cette société, mais qui, certainement, signifie quelque chose aussi dans notre monde à nous. Et les phrases sont assez claires là-dessus, d'ailleurs. Il faut avoir le courage de compléter l'explication. Donc, c'est-à-dire que l'explication, la première explication, facteurs économiques et sociaux, elle existe, elle est vraie. Mais elle cache une autre explication plus simple, dans un sens. C'est-à-dire que la société, les facteurs économiques et sociaux, ce sont des constructions de la société, de la culture. Mais en dessous ces constructions, c'est-à-dire la base même du personnel humain, hein, c'est-à-dire de l'humanité, cette base même, donc quelque chose qui serait inscrit dans le patrimoine génétique, évidemment de l'espèce humaine, et cette chose qui serait inscrite dans le patrimoine génétique, ça serait donc ensuite instinctif dans le comportement. Ça va pour tout le monde, le vocabulaire ? Instinctif, patrimoine génétique de l'espèce, et pousse les grandes masses humaines. Ici, bon, on comprend bien ce que ça veut dire, les grandes masses humaines, et on peut faire attention à cet article défini, les grandes masses humaines, c'est-à-dire, pas ici dans cette société, mais n'importe où, d'une façon générale, un peu anthropologique, un peu, hein. Donc, les grandes masses humaines. Et en effet, je crois que nous avons tous l'idée que il y a la possibilité de diriger des grandes masses humaines, des foules, comme on dit. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai en effet une certaine crainte de la foule lorsqu'il y a comme ça des milliers de personnes rassemblées. Il peut y avoir un mouvement de panique et il y a toujours des gens écrasés, bousculés, massacrés dans un mouvement de panique qui est une réaction d'instinct. De vouloir se sauver, se protéger, par ailleurs compréhensible aussi. Alors, quel est cet instinct ? Parce que l'instinct, d'accord, les grandes masses, d'accord, mais pourquoi faire ? Pousse les grandes masses humaines à cautionner ce qui promet la désolation et le carnage. Cautionner, ça veut dire donner leur caution, donner leur accord, être d'accord avec ce qui promet la désolation et le carnage. Ce qui promet, alors quelque chose qui promet, hein, une action, une personne, une situation, il y a une situation qui promet, c'est-à-dire qui montre ce qui va se passer, hein, si on continue comme ça, si on laisse faire, ça va être la désolation et le carnage. Alors évidemment, ça ne semble pas être un instinct positif. Hein, peut-être à l'inverse d'un instinct de survie. Tout le monde connaît cette notion d'instinct de survie. Même si on a des idées quelconques, bon, il y a un moment où l'instinct nous pousse à faire ce qu'il faut pour survivre. Et sans penser à des choses spécialement intellectuelles. L'instinct de survie. Mais la désolation et le carnage, ce n'est pas l'instinct de survie, c'est plutôt le contraire. Désolation, c'est-à-dire de tout détruire, hein, et le carnage, le fait de piller, de tuer, de prendre, de détruire aussi. Et d'ailleurs, cette expression, la désolation et le carnage, j'ai lu plusieurs fois le livre, hein, même pour préparer le cours. Et à chaque fois, je me suis arrêté en me disant « c'est bizarre cette expression, ça ne me paraît pas nouveau ». La forme de l'expression, les mots utilisés, me semblent être une expression classique. Alors bon, je n'ai pas beaucoup de lettres classiques, comme on dit, hein, c'est-à-dire d'auteurs latins, grecs ou anciens, mais quand même quelque chose. Alors, j'ai cherché avec Internet, hein, si je pouvais trouver des occurrences, des textes dans lesquels il y avait cette expression désolation et carnage, la désolation et le carnage. Et j'en ai trouvé beaucoup d'occurrences, mais pas de textes d'origine. Alors il y a peut-être un texte d'origine, un premier texte, après lequel cette expression a été, par exemple, étudiée, répétée par des auteurs classiques, comme c'est souvent le cas avec des textes en latin. Il y a des passages de Claude Simon, par exemple, où Claude Simon explique comment ça se passait à l'école quand il faisait la traduction latine. Et tous les petits Français qui ont fait, Français et Françaises, hein, garçons et filles, qui ont fait de la traduction latine, comprennent exactement ce que veut dire Claude Simon à ce moment-là. On a des expressions en latin, et puis on cherche dans le dictionnaire, on essaye de comprendre, mais c'est pas facile. Bon. Et alors j'ai trouvé, surtout en français, quelques possibilités en latin, mais pas de texte d'origine. Donc il y a une expression comme ça, désolation et carnage, carnage et désolation, qui se trouve répétée dans un certain nombre de textes classiques. Et Google Books, par exemple, nous donne beaucoup d'occurrences dans des textes du 19e siècle, après la Révolution. Donc il peut y avoir soit une création à ce moment-là, ou bien une reprise d'un texte latin, par exemple. Donc Antoine Volodine, lui aussi, a étudié à l'école et a peut-être eu quelques souvenirs comme ça, d'autant que dans une expression de l'Iliade, vous connaissez l'Iliade, le texte de Homère, hein, Homérus, il semble y avoir une expression à peu près identique avec la présence de deux personnes qui étaient des jumeaux dans l'histoire de l'Iliade, dont les noms ne sont pas très connus, donc je ne vous les répète pas. Mais ici, on a deux frondistes, et juste après, cette expression. Donc c'est quand même un contexte un peu bizarre, où il y a sans doute une source ancienne, de textes anciennes, que Volodine a reprise. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu l'art poétique, hein, de Kachbakiro, et il a dit que il ne raconte pas exactement ce qui se passe, mais il prend des petits fils de différentes parties de, hein, et il les prend. Bon, donc une possibilité ici d'un fil très difficile à tirer, mais c'est possible. Alors, je passe là-dessus. Un élan mystérieux anime collectivement les esprits et les dévoie vers le pire. Alors, un élan mystérieux, c'est une autre façon de dire un instinct, et on pourrait dire également, avec un mot qui est valable pour beaucoup de situations, un tropisme. Je pense que vous connaissez le mot tropisme, au moins. Comme le titre d'un livre de Nathalie Sarraute, hein, au pluriel, hein, tropisme, mais plutôt dans le domaine scientifique, le mot tropisme signifie mouvement automatique d'un ensemble appartenant à une espèce. Alors, une espèce ou plusieurs espèces. Par exemple, la plupart des plantes poussent du bas vers le haut. Pourquoi poussent-elles du bas vers le haut ? Parce qu'elles sont attirées par la lumière. Et les tournesols se tournent pour être toujours face au soleil. C'est un phototropisme, tropisme de la lumière. De la même façon, vous savez qu'il y a des bancs de poissons. Vous savez, vous avez vu peut-être déjà dans des aquariums, hein, des petits poissons comme ça, qui tournent tous en même temps. Tout. Alors, en général, ce sont des tropismes liés à la température ou à l'électricité ou à d'autres choses. Mais tous en même temps, sans communiquer, hein, parce que sinon il y aurait un décalage entre les mouvements. Donc il y a quelque chose de global. Ici, un élan mystérieux anime collectivement les esprits et les dévoie vers le pire. Alors, là aussi, c'est comme la phrase précédente, au lieu d'être quelque chose de positif, parce qu'en général, pour une espèce, le tropisme va dans le sens de la survie. C'est un tropisme pour vivre. Ici, c'est vers le pire. Donc, c'est un tropisme dévoyé, donc on a inversé la valeur ou l'utilité. Alors ça, c'était des explications générales, on pourrait dire anthropologiques ou même animales, hein, au sens le plus général possible, mais négatives. Comment ça se passe dans la réalité, dans cette société? Eh bien, c'est développé juste après. Il suffit qu'aux opinions publiques, on désigne un ennemi hors des frontières pour qu'en une nuit, hein, donc c'est très rapide hein, la réaction, elle se bellicise, débellus, la guerre, et fasse bloc autour de nos soldats. On a l'impression d'une expression, là aussi, hein, c'est un homme politique qui parle, hein, qui dit rassemblez-vous autour de nos soldats. Bon, on entend ça. Autre exemple, pour qu'après une seule journée d'orchestration du mensonge, elle plébiscite les bombardements, réclame à n'importe quel prix la victoire. Donc on parle toujours des foules, hein. Elle, ce sont les foules. Donc, en une seule nuit, elles deviennent favorables à la guerre, simplement parce qu'on a fait passer un message particulier, ou en une seule journée d'orchestration du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire manipulation des médias. On envoie des hommes politiques, des journalistes, dire le même message plus ou moins dans tous les médias, et automatiquement, l'ensemble de la population, ou une très grande partie de la population, se tourne, hein, l'opinion se tourne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion, justement, et qui est à la fois quelque chose qu'on essaye de comprendre, mais également qu'on essaye de orienter, hein, de manipuler, de dominer. Autre exemple, réclame à n'importe quel prix la victoire. Goulûment, elle s'abreuve à la propagande martiale. Alors goulûment, hein, ça veut dire en voulant avaler beaucoup. Hein, c'est en général ce que l'on boit. Goulûment, ça vient de la goule, c'est une déformation de la gueule, donc c'est le fait de boire. Boire goulûment, ça veut dire boire beaucoup, en essayant d'ouvrir au maximum la bouche. Et donc, goulûment, c'est-à-dire sans se retenir, hein, en essayant d'avoir le plus possible, elle s'abreuve, s'abreuver c'est boire, hein, breuvage, à la propagande martiale. Donc la propagande, ici le mot est utilisé directement. Alors ça c'était à l'extérieur, l'ennemi à l'extérieur. Donc on dit, eh bien par exemple, pour les Français, hein, ça va être les Allemands, et on va dire quelque chose, et en quelques heures, quelques jours, tous les Français vont être d'accord pour faire la guerre avec l'Allemagne. C'est ce qui s'est passé en 1913-1914, avec la Première Guerre mondiale, où on a dit aux Français qu'il fallait défendre, évidemment, la situation, mais sans bien faire attention à la puissance ennemie. Et en 1940, c'est la même chose, d'ailleurs, à peu près. Mais il y a aussi l'ennemi intérieur. Quand des tribuns désignent à l'intérieur des frontières, des boucs émissaires, les foules se tiennent bouche cousue devant les crimes, ou encore se radicalisent, s'amourachent follement des forts en gueule, languissent après un nouveau printemps de génocide. Des tribuns, ce sont des gens qui montent à la tribune, hein, des orateurs politiques, désignent avec leurs doigts, à l'intérieur des frontières, donc dans la population du pays, désigne des boucs émissaires. Vous connaissez sans doute l'expression « bouc émissaire ». dans un troupeau, dans un ensemble de personnes, on va désigner celui qui sera non pas le coupable, mais celui qui devra être sacrifié pour se débarrasser du problème. Comme s'il y avait une puissance supérieure, une sorte de Dieu, qui attendait un sacrifice, et si on a le coupable, il s'appelle le coupable, c'est pas le bouc émissaire. Le bouc émissaire, il est émissaire, c'est-à-dire, il porte le message. Il est le sacrifié. En général, il n'est pas volontaire, bien sûr. Donc, le bouc émissaire. Et alors, si on a désigné ce bouc émissaire, donc celui qui n'est pas coupable, mais qui va être sacrifié, les foules se taisent, bouche cousue, expression courante pour dire se taire, rester bouche cousue, comme si on avait cousu la bouche, bon, devant les crimes. Donc, on laisse faire, laisser faire. Ou encore se radicalisent, les foules sont plutôt assez molles, centristes, ou quelque chose comme ça. Donc, d'un seul coup, elles vont se radicaliser, c'est-à-dire devenir un peu énervées, excitées, adopter des idées extrêmes, et s'amouracher. Alors, s'amouracher, c'est un verbe qui vient de amour, être amoureux. S'amouracher, ça veut dire tomber amoureux d'une façon assez facile et peut-être pas très longue, sans lendemain. Donc s'amouracher. C'est peut-être une construction avec amour et arracher, par exemple. C'est assez ancien, amouracher. Alors elle s'amourache follement, d'efforts en gueule. Donc, c'est les mêmes que les tribuns, qui parlent fort à la tribune. Et elles languissent. Alors, languir, ça veut dire attendre, s'ennuyer en attendant quelque chose. Elles languissent après, donc en attendant, un nouveau printemps de génocide. Alors, cette expression printemps de génocide, de la même façon que les phrases de tout à l'heure, c'est-à-dire l'instinct qui est normalement de survie, tourné vers la désolation et le carnage, l'élan au sens de tropisme, mais vers le pire, il y a une construction d'oxymore, c'est-à-dire d'opposer ce qui est normalement positif et ce qui est normalement négatif. Donc l'instinct est pour la survie positif et le carnage c'est négatif. Ici, le printemps c'est quelque chose de beau, c'est la naissance, la renaissance à chaque année de la nature, et puis de l'autre côté le génocide, le fait de tuer, d'exterminer une espèce. Et d'ailleurs il y a des expressions très connues avec le mot printemps au sens politique ou historique. Le printemps des peuples, ça, vous avez entendu déjà, on en a parlé un petit peu avec Flaubert. Le printemps des peuples, c'est en 1848, lorsque la révolution de 1848 en France a donné des idées à d'autres peuples européens. Il y a eu en Europe d'autres mouvements de soulèvement, de contestation populaire que l'on a appelé dans l'ensemble le printemps des peuples. Certains penseurs, politiciens, ont eu l'impression que, d'un seul coup, les peuples européens se réveillaient, comme la nature, enfin, le printemps. Et puis, plus près de nous, le printemps de Prague, en 1968, qui était une sorte de joie collective dans la ville de Prague, Praha, et qui a été écrasé par l'opposition, on peut dire, des soviétiques à cette libération nationale. Donc, printemps de quelque chose, en français, ça veut dire toujours quelque chose de politique, de positif, de humaniste dans ce sens. Et printemps de génocide, extraordinaire, oxymore, c'est-à-dire construction à la figure de mots opposés. L'oxymore associe toujours deux mots ou deux termes, deux expressions qui sont de sens contraire. Alors, on peut parler de la lumière noire, par exemple. C'est un oxymore classique. Après cette explication de type général, anthropologique ou même animal au sens des tropismes, mais inversé, arrive la présentation du chef. Du chef ou de celui qui représente le mieux la situation. En effet, plusieurs fois, il sera répété que Balint Zagebel n'est pas un tyran au sens de celui qui était le roi, le prince, qui a le pouvoir et qui va l'exercer contre le peuple. Non, plusieurs fois, et c'est répété, il est clair qu'il est la représentation du peuple. Il a été en quelque sorte fabriqué par le peuple, dont il vient lui-même. Il n'est pas représentant d'une élite au sens de l'ancien régime, mais il vient du peuple, il est l'expression du peuple, considéré comme le dirigeant politique. Alors dans ce sens, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début de la présentation du frondisme, c'est-à-dire, en fait, ils sont 3, 500, 1000, ils sont légions, des millions. Et en découvrant Balint Zagebel, on redescend cette progression, c'est-à-dire les millions de personnes du peuple s'expriment, se manifestent, s'incarnent précisément, le vrai mot ça serait ça, s'incarner dans la personne de Balint Zagebel. Alors son nom, Balint Zagebel, on l'écrit donc Zagoebel, et on va le prononcer Zagebel. Balint, c'est un prénom d'origine hongroise, comme Sarkozy. Il n'y a pas de rapport, hein, puisque Volodine a écrit en 90, hein. Sarkozy n'était pas encore très connu. Mais Zagebel, ça vous fait penser à quelque chose, la sonorité comme ça? Et également, pour les Français, l'association des lettres, hein, G-O-E-B-E-L. Donc si on retire le za au sens japonais, alors c'est the, hein, l'anglais the, za, gebel. Bon, mais les Français n'utilisent pas tellement cette façon d'écrire the anglais. Mais gebel, ça fait penser à Goebbels.
Okay.
Joseph Goebbels. Je ne sais pas comment vous prononcez en japonais.
Goebbels.
Donc c'est pour ça que vous n'y pensez pas. Mais pour les Français, je crois que entendre un Zagebel et voir la forme des lettres ici fait penser à donc ce ministre du régime nazi qui s'appelle Joseph Goebbels et qui était le ministre de la propagande et de l'éducation. Qui était né en 1897, bon, c'est pas spécialement important, et qui est mort en 1945. Et son titre, précisément en français, c'était « Ministre de l'éducation du peuple et de la propagande ». L'éducation du peuple et de la propagande. Et bien sûr, il est connu, reconnu internationalement comme un maître de la propagande, de la manipulation des foules, et on peut même dire de la domination des foules par la maîtrise du langage, mais également de l'orchestration des situations. Et c'est très important parce que Les mots, ça marche évidemment, mais si la situation n'est pas bien organisée, le mot ne marche pas aussi bien. Alors on va voir dans l'installation du cirque sur cette place et la transformation du quartier en une espèce de tribune, c'est tout à fait classique de l'organisation au moins nazie. Mais peut-être qu'on pourrait trouver d'autres exemples, hein, au moins dans le XXe siècle. Alors ce Balint Zagebel, donc ce n'est pas Joseph Goebbels, hein, c'est très clair, mais il y a une petite relation, hein, on se sent quand même un petit peu attiré de ce côté-là. Il est qualifié par, à la page 36, donc deuxième tiers, hein, la rouerie, l'absence de scrupules et la violence. Ce sont les trois termes qui définissent en quelque sorte Zagebel. La rouerie. Rouerie qui s'écrit donc rouerie. Qu'est-ce que ça signifie la rouerie? Ça vient de, peut-être au XVIIe siècle, on utilisait ce mot dans le sens de libertin. Un roué, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la morale, la religion, bien sûr. Mais d'une façon plus générale, la rouerie, c'est une sorte de malhonnêteté, hein, de la, au fond de la personne. Donc on a, dans les définitions du dictionnaire, comportement indélicat, malhonnêteté, bien sûr, ruse, fourberie, donc roué, fourbe aussi. Et on peut ajouter que ça s'accorde très bien avec absence de scrupules. Qu'est-ce que c'est les scrupules? Ce sont les choses qui vous retiennent, qui vous empêchent de faire quelque chose qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas correct, etc. Bon, si vous n'avez pas de scrupules, vous pouvez le faire. Dans la politique aujourd'hui, on a transformé cette expression « absence de scrupules », c'est devenu maintenant « décomplexé ». Si vous avez lu des médias français depuis 2 ou 3 ans, vous pouvez voir que les politiques sont décomplexées, c'est-à-dire sans complexe. Et c'est exactement la même chose que « sans scrupules », donc « décomplexé » aujourd'hui. Et la violence. Alors la violence, bien sûr, qui n'est pas normalement l'action politique. L'action politique doit justement éviter la violence et la normaliser au maximum. Donc voilà sa définition. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres choses sur Balint Zagebel. Je ne vais pas reprendre en détail son portrait, mais il y a des éléments de datation. Alors, en haut de la page 37... on dit que c'est dans les années 60, on ne dit pas quel siècle, dans ce monde de Champs Rouges, mais il y a des années 60. Alors bien sûr, les Français pensent aux années 60 du XXe siècle, mais peut-être dans 2 ou 3 siècles, quand on lira Volodine, les gens demanderont, mais c'est quel siècle? On ne sait pas. Donc, les années 60. Est considéré comme le rouage le plus solide de la machinerie totalitaire. Donc il est un rouage. Vous voyez, il n'est pas le créateur, il n'est pas le fondateur, il est un rouage, c'est-à-dire une pièce, une production aussi du système. Et il a eu cette idée originale de se retirer du pouvoir. En effet, son parti, lui et son parti, ont le pouvoir depuis un certain temps, et ça se passe très bien pour eux. Mais il y a des mauvais résultats dans certains domaines, économiques, etc. La lutte contre des ennemis à l'extérieur aussi. Donc, Balint Zagebel a eu une idée de génie, hein, comme on dit, c'est de se retirer du pouvoir en mettant à sa place, à la place de ses amis, des personnes qui sont très facilement manipulables et qui vont devenir responsables des mauvaises situations. Alors ce sera ensuite facile pour Zagubel de récupérer la situation. C'est-à-dire de récupérer la bonne opinion du peuple contre ces ministres qui auront à supporter les conséquences de la politique de Zagubel avant. Ça se passe comme ça aussi dans les changements politiques. On a beau répéter aujourd'hui que Obama aux États-Unis a une situation difficile à cause de la situation comme elle était auparavant avec Bush, mais les Américains d'aujourd'hui veulent une réponse, un résultat aujourd'hui. Et c'est pas facile. Bon, c'est un peu la même situation. Le même problème, disons, pas la même situation. Alors donc on change, on sort des commandes de l'État et pour lui, il conserve la rue, la presse, la police, de vive sympathie à l'état-major, c'est-à-dire dans l'armée, les officiers, l'industrie. Et donc en quelque sorte, il renforce son pouvoir en se retirant du pouvoir, parce qu'il renforce sa relation avec le peuple. Et donc on oppose ici le peuple et le gouvernement. Le gouvernement étant toujours quelque chose qui est opposé au peuple, dans cette façon de penser. Hein. Je ne dis pas que c'est la réalité. Alors je passe à la page suivante, à la page 38. Nous parlions de Zagubel, hein, c'est-à-dire il ne faut pas s'égarer à parler des politiques. C'est un homme des années 40, il le sera jusqu'à la mort. Des années 40, c'est-à-dire il a dû naître. Hein, il est né dans ces années 40 et c'est un homme des années 40. Il vient de cette période et de la culture de cette période. Et de ces années 40, il va garder un certain nombre de traits distinctifs qui permettent de l'identifier ou d'identifier cette génération. En particulier, des habitudes et des comportements, le même éternel carnet à spirale sur lequel il note des choses, en particulier, comme on voit au milieu de la page 38, des boutades. Il réservera pour ses propres boutades, que parfois il aura préparées à l'avance, et parfois non, mais qui toujours comporteront un élément odieux, conçu pour exciter les masses. Donc, boutade. Ce mot boutade est très important, parce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est une boutade, hein? C'est une expression, un trait d'esprit, hein, comme on dit en français, un trait d'esprit, c'est-à-dire une expression spirituelle qui joue sur le sens des mots, la prononciation, et qui est amusant, pas toujours sérieux. Certains hommes politiques aiment bien jouer en utilisant des boutades parce que ça marche bien avec le peuple, même si c'est pas tout à fait vrai. Ça permet quand même de faire rire le peuple et d'avoir sa sympathie. Alors je crois que c'est pareil dans tous les pays, hein. Vous devez avoir au Japon aussi des hommes politiques qui aiment plus la boutade que l'explication sérieuse des problèmes économiques et sociaux. Également, il a un manteau de cuir beige. Alors, le manteau de cuir, hein, ça fait penser aussi aux officiers allemands. Mais je crois que les officiers allemands avaient toujours un manteau de cuir noir et non pas beige. Donc ici, beige, c'est une note de couleur un peu différente, hein, qui change de style. Mais on voit quand même l'image, hein, manteau de cuir. Ça, on ne peut pas l'effacer. Donc, beige, sa particularité. J'ai pas une grande connaissance de tous les régimes totalitaires dans le monde, mais si vous avez le souvenir d'un pays où on avait des manteaux de cuir beige, je vous écoute, hein, je serai prêt à aller chercher d'un côté ou d'un autre. Moi, je n'ai pas trouvé ça dans mon souvenir.
Peut-être roumain.
Roumain? En Roumanie?
Non.
Non?
C'est un roumain.
Ah, romain. Oui, alors, mais c'était pas du cuir, alors.
Ah, non.
D'accord, donc c'est la couleur plus... Ah oui, ça pourrait être une association, alors, de l'Empire romain, au sens de la couleur claire, du beige. Je chercherai dans ce sens. Merci. Voilà, bon, le portrait de Zagebel se continue. Et puis à la page 39, le paragraphe du haut de la page, avec une incontestable science de la gloire, Balint Zagebel ne se montre pas trop en public. Donc il calcule un peu ses apparitions, ce qui correspond bien à la notion de manipulation, de manipulateur. Le manipulateur est toujours en représentation, comme un acteur. On a l'impression qu'il est naturel, mais tout est construit et réfléchi et pensé. Travailler devant le miroir, comme un acteur. Alors quand même, ce Balint Zagebel n'est pas seul. D'abord, sa situation a évolué depuis 30 ou 40 ans, qu'il a progressé dans le pouvoir de ce pays. Sa famille a été durement touchée. Des membres de sa famille, sa femme, son fils, etc., ont été liquidés par des attentats politiques. Et évidemment, ces attentats, qui ne l'ont pas tué lui-même, ont renforcé la compassion du peuple, c'est-à-dire sa relation privilégiée avec le peuple. Et au milieu de ce paragraphe, on arrive ou on revient à la notion du double, du clone. Le plus souvent, c'est un autre qui, à sa place, apparaît devant la foule et attise la foule. Un autre qui s'expose à la mitraille, toujours possible, d'un terroriste. Un fidèle et vieil ami qui semble surgir, etc., etc. Et donc, un double parfait, Balint Zagebel. Et alors, je n'arrive pas à savoir si cette partie du texte est sérieuse, au sens de vraiment, dans cette histoire, il y a deux Balint Zagebel, comme deux jumeaux. Sont-ils vrais jumeaux ou pas? Est-ce simplement quelqu'un qui lui ressemble et qui est engagé pour faire ce travail? Ou bien est-ce une façon de dire que un seul individu peut être partout à la fois? Je n'arrive pas à savoir. Le texte, pour moi, n'est pas suffisamment clair pour me dire s'il y a un, deux ou des millions de Zagebel. Finalement, le texte m'a piégé complètement. Je ne peux pas le savoir. Je ne fais pas confiance à ce qui est écrit ici. Et c'est peut-être la volonté, d'abord du texte, bien sûr, mais la volonté dans ce cas de situation politique. C'est-à-dire, on ne sait jamais exactement en face de qui on est. On ne peut pas faire confiance complètement à quelqu'un parce qu'on ne sait pas exactement qui il est, lequel il est. C'est une situation où le double personnage va poser un problème. Et on va voir que cette notion de double va devenir très importante dès que Balint Zagebel va parler. Ou bien, dès que, pour revenir à votre question de tout à l'heure, dès qu'on va regarder les messages officiels, les slogans, on va trouver beaucoup de double sens ou de double autre chose. On verra ce qu'on peut en faire. Ensuite, à la page 39, on reprend avec les trois personnages. Voilà donc les mots pris à double sens et les boutades. Parce que boutade, que je vous signalais tout à l'heure à la page 38, ça veut dire aussi qu'on joue sur le sens des mots, sur la polysémie. La polysémie, c'est la possibilité d'avoir plusieurs sens d'un mot. On l'a vu déjà avec oiseau, tout simplement. On va le voir avec Neg, avec Piaf, avec beaucoup d'autres qui vont apparaître. À la page 40, donc les trois personnages se promènent dans le centre luxueux de la ville de Champrouche. À la page 41, on parle des gens justement qui sont dans les rues et qu'on imagine dans des meetings politiques. Et à la sixième ligne, vomissant dans le cri général, leur rancœur, levant le bras en oblique. Levant le bras en oblique. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait plusieurs façons de lever le bras en oblique ? Oblique, tout le monde connaît oblique ? J'ai demandé à quelqu'un, on m'a dit que c'est naname, hein, en japonais. Donc, oblique. Alors, j'ai essayé d'autres façons. Hein, donc, je lève le bras en oblique comme ça. Je ne peux pas saluer quelqu'un en faisant ça, ou en faisant ça, ou en faisant ça. Donc, il n'y a vraiment qu'une seule façon, c'est comme ça. Et donc, il n'y a qu'un seul salut, comme ça, c'est le salut nazi. Et si on veut plier le bras, il y a d'autres possibilités. Donc là, c'est oblique, mais c'est le bras plié, et ce n'est pas marqué plié. Donc, le bras en oblique, hein, c'est le bras tout entier, et il n'y a qu'une seule façon. C'est le salut nazi. Au moins dans notre souvenir récent, bien évidemment. Alors, voyez comment Volodine travaille. Il ne désigne pas la période nazie, le régime nazi, les dirigeants nazis. Il essaye de faire une sorte de conte qui soit en dehors de cette situation. De sorte que dans un siècle ou dans trois siècles, le texte aura le même sens exactement, indépendamment de la distance qui aura été prise avec cette période de l'histoire mondiale au milieu du XXe siècle. Le bras en oblique. Et puis on arrive ici dans les années 90, c'est marqué au milieu de la page 41, au milieu des années 90. Donc, cela fait à peu près une trentaine d'années hein, que ce Balin Zagebel est dans les rouages politiques. Je passe là-dessus et on arrive donc à la page 42 avec l'entrée des trois dans un café-restaurant où ils veulent manger avec leurs 15 sous. Et avant même qu'ils commandent ou qu'ils payent, on veut déjà les chasser. Et les chasser en leur montrant un panneau où il est marqué, en majuscule donc, « La maison sert pas les nègres et encore moins les piafs ». Alors on voit que la langue n'est pas très bien respectée, hein, puisque la maison ne sert pas, la forme négative à l'écrit n'est pas respectée. Et nègre, on ne sait pas ce que c'est, et on verra que plus tard, un petit peu plus tard, le violoncelliste, lui aussi, dira aux trois camarades, moi aussi, dans un sens, je suis un nègre. Donc ça veut dire, ça n'est pas une mauvaise prononciation. C'est, dans cette société-là, c'est un type de gens, un type de population qui s'appelle les nègres. Si on pense à notre monde à nous, alors peut-être que ça, c'est l'équivalent des nègres, c'est-à-dire des noirs. Mais il n'est pas marqué qu'ils ont la peau noire ou certaines autres particularités. Donc, on ne peut pas dire que les nègres, ça veut dire les nègres. C'est une sorte de faux collage. Ça ressemble, mais c'est différent. Alors bon, on est encore dans le cas de double sens hein, qui ne marche pas bien. Les piafs. Qu'est-ce que c'est les piafs ? Ce sont des petits oiseaux, des moineaux. Dans le dictionnaire, on trouve piaf, moineau. Vous connaissez la chanteuse Edith Piaf, qui a été nommée piaf, justement, c'est toute petite, hein, sur la scène, comme ça, comme un petit oiseau. Bon, voilà, on l'a nommée piaf. Mais je vous ferai remarquer que piaf, P-I-A-F, c'est quatre lettres, finit par un F qui se prononce, ça ressemble un peu à juif. J-U-I-F, quatre lettres, qui finit par un F. Juste comme ça, hein, au passage. On n'est pas sûr, mais il y a une possibilité. Et puis, le thème, c'est la maison sert pas. Donc, c'est le thème de servir. Servir, c'est donner à manger. Alors, donner à manger aux nègres, bon, on ne veut pas leur donner à manger, peut-être parce qu'il y a du racisme, comme vous disiez tout à l'heure, et donner à manger aux piafs. C'est un peu comme donner à manger aux oiseaux. Alors, tout le monde connaît dans son quartier, hein, des gens qui donnent à manger aux oiseaux. Qu'est-ce qui se passe autour de ces gens qui donnent à manger aux oiseaux? Il y a toujours des gens qui disent que c'est pas bien. Parce que on donne à manger aux oiseaux, et alors ça attire d'autres oiseaux, et puis c'est un peu sale, après ils font des cacas partout, et finalement ça salit le quartier. Donc, lorsque quelqu'un donne à manger aux oiseaux, il y a toujours d'autres personnes qui pensent que c'est pas bien. Et qu'est-ce que c'est les oiseaux? Ben, c'est des petits migrateurs qui passent par là. Donc c'est un peu comme des populations nomades. Et en effet, ici aussi, dans tous les pays, il y a des gens qui donnent à manger à des pauvres étrangers qui sont sans travail, sans situation, sans papier. Et les gens qui aident les sans-papiers, on les accuse aussi de dégrader, d'aggraver la situation. Les sans-papiers, ils sont sans-papiers, donc il faut les chasser. Hein, c'est une façon aussi de penser. Alors, moi je pense qu'il y a de tout ça là-dedans. Ou alors c'est moi qui le mets. Oh, ça c'est le problème, hein, avec les textes qui sont pas explicitement clairs sur leur sens. C'est que c'est un peu comme l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y apporte. Moi, je lis ce texte avec ma culture, et quand je lis « La maison ne sert pas les piafs », je pense à, oui, donner à manger aux oiseaux, ah oui, alors les oiseaux, c'est un peu comme des étrangers qui passent, mais peut-être que quelqu'un d'autre ne le pense pas. Quelqu'un d'autre pense « piaf, piaf, oiseau, c'est tout. C'est tout. » Moi, j'ai l'impression que sur ce « piaf », il y a trois sens différents. Il y a le sens de l'oiseau, on a vu déjà le problème, hein, oiseau. Il y a le sens de métaphore de l'oiseau comme donc étranger, par exemple. Hein. Ça, c'est les oiseaux ici dans ce texte. Et puis le troisième sens, c'est peut-être juif alors. Troisième possibilité. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ces trois, mais je ne peux pas choisir entre les trois. Donc les trois se trouvent automatiquement liés, et j'attends la suite du texte pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi-même, je suis mal à l'aise avec ma propre lecture en me disant « Est-ce que je fais bien de penser aux Juifs ?» Et finalement, je suis peut-être antisémite, moi aussi, puisque j'y ai pensé. « Oh, c'est grave, docteur, sauvez-moi !» Parce que il y a plein de gens qui disent qu'ils ne veulent pas être antisémites. Et puis finalement, ils le sont. Et ils disent, mais c'est pas de ma faute. Ah oui, ça arrive. Et on a tous ce risque. Hein. Le risque existe pour tout le monde. Personne ne peut dire qu'il est complètement à l'abri de la situation. Bon, voilà pour moi ce que c'est que cette stratégie littéraire, hein, véritablement littéraire de Volodin, qui consiste à rendre flou le sens des mots, pour mettre mal à l'aise le lecteur, en même temps que pour installer une situation elle-même, une situation de malaise profond dans la société. En disant ça, je dévoile beaucoup de choses, hein, sur la suite, hein, puisque malaise dans le texte, malaise dans le lecteur, on va aller vers une situation toujours pire. Mais c'était déjà annoncé tout à l'heure, hein, vers le pire, le printemps des génocides. Bon, alors voilà pour le piaf à triple sens. page 44, donc Madame le citait tout à l'heure, et puis également page 46. Donc je saute hein, quelques parties. Et en bas de la page 46, là encore sous forme de message écrit sur une affiche du concert. On se rapproche hein, de notre théâtre des opérations. Des graffitis injurieux maculent la deuxième affiche. Le nom de Canto Gillas, c'est le compositeur qui a fondé, dont le nom a été pris pour nommer le quatuor, le nom de Canto Gillas a été barré. L'épiaphe à la rôtissoire est-il écrit? Et des obscénités, un signe groupusculaire, le numéro de téléphone d'un répondeur. L'épiaphe à la rôtissoire. Bon, c'est amusant, hein? C'est très amusant comme expression. C'est exactement ce qu'on appelait tout à l'heure une boutade, c'est-à-dire s'amuser hein, de façon assez spirituelle avec les mots. Les piafs, ce sont des oiseaux. Les oiseaux, on peut les faire cuire dans une rôtissoire, on peut les faire rôtir. Quand vous allez en France, dans la rue commerçante, il y a toujours une boucherie avec sa rôtissoire à l'extérieur, et ça sent très bon, hein, le poulet rôti. Donc les piafs à la rôtissoire, on mange des cailles, on mange des poulets, on pourrait manger des piafs. Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est très bon, mais peu importe. Donc les piafs à la rôtissoire, c'est une façon de dire que ceux qui appartiennent à un groupe qu'on appelle les piafs peuvent être menés, peuvent être tués, brûlés dans une rôtissoire. Alors automatiquement ça pousse un petit peu le mot piaf du côté des juifs. Pour le coup, je ne me suis pas trompé tout à l'heure. Parce que qui est-ce qu'on a mené à la rôtissoire? Bon, historiquement, il y a beaucoup de sorcières. dans tout le Moyen-Âge et après, on a tué beaucoup de sorcières, on les a fait brûler. Je vous renvoie au livre de Michelet, La sorcière, hein, qui raconte. Il y a quelques petits souvenirs de Michelet qui passent de temps en temps aussi, de la sorcière. Des ambiances de peuple, surtout la notion de peuple, hein, de groupe, de carnaval, hein, la folie du carnaval. J'ai pas trouvé de citation exacte, hein, mais un petit quelque chose. Bon, peu importe. Donc on a brûlé beaucoup de sorcières, c'est vrai, mais plus récemment, on a surtout brûlé des juifs. Brûlé, gazé, donc on a plusieurs possibilités, disons, je m'excuse du mot, mais historiquement avéré. Donc les piafs à la rôtissoire. Et d'ailleurs, ça rappelle que Jean-Marie Le Pen, tout à l'heure on parlait du Front National, hein, Jean-Marie Le Pen a dit il y a quelques années, assez longtemps maintenant, que les chambres à gaz étaient un détail de la Seconde Guerre mondiale. Un détail, c'est-à-dire une petite chose sans importance. Bon, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Même si on veut dire, hein, l'idée c'est que la Seconde Guerre mondiale c'est un énorme théâtre d'opérations à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Bon, et c'est vrai que la volonté d'extermination des Juifs par les Allemands est une partie de cette situation. Ça n'est pas le but de la guerre, ni l'ensemble de la guerre. Mais on ne peut pas dire détail. C'est pas possible. Et puis, il avait fait un jeu de mots aussi sur un homme politique français qui s'appelle Durafour. Et il avait dit Durafour crématoire. Four crématoire, four pour brûler. Donc on ne peut pas faire ce genre de jeu de mots, c'est tout à fait impossible. Et il a été accusé et condamné pour ces formes de diffamation, hein, diffamation, insulte, et, etc. Donc une expression comme l'épiaphe à la rôtissoire est très proche de ce genre de boutade, hein, qui consiste à nommer une catégorie de personnes et, d'une façon haineuses, hein, avec de la haine, de les condamner à une mort prochaine. En effet, les piafs à la rôtissoire, il n'y a pas de verbe, mais les piafs à, hein, le à, ça veut dire un mouvement, d'amener quelqu'un, d'emporter quelqu'un vers quelque chose. Alors c'est souvent les slogans politiques des manifestations. On dit par exemple « tous à la Bastille ». On n'a pas besoin de verbe. Hein, ça veut dire « allons tous à la Bastille ». Mais « tous à la Bastille » suffit très bien sans verbe. Donc dans ce sens de slogan politique, mot d'ordre, slogan ou mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est donc le mot ou l'expression qui sert d'ordre donné, transmis à tous, hein, les uns par les autres, du début à la fin de la manifestation ou du cortège. À la page 47 également, Wilma Grodno, avec ses deux amis, après avoir rencontré donc Maki Onion, hein, c'est-à-dire le violoncelliste du Quatuor, raconte leur situation. Hein. Il avoue qu'ils sont trois prisonniers qui sortent de la prison et qu'ils ne connaissent pas du tout la musique classique, les compositeurs, etc. Mais Maki Onion n'hésite pas à les aider, hein, c'est-à-dire il donne à manger, hein, aux piafs, hein, dans ce sens, il les aide. Et il va leur donner des billets pour le concert en leur disant que ça va leur plaire beaucoup. Même si ce sont des gens qui ne sont pas très cultivés, Maki Onion pense qu'ils peuvent aimer cette musique. Et on arrive à ce moment-là, page 48, juste au moment où des camions s'engagent sur le chemin, donc à l'extérieur de la ville. Ah, attention, j'ai perdu un papier parti sous la chaise. C'est pas grave. C'est-à-dire cette forme de synchronisme. En même temps, à deux endroits différents, il se passe quelque chose. Donc, ici, au centre-ville, Maki Onion et les trois ex-prisonniers. Et là-bas, à l'extérieur de la ville ou dans la banlieue, des camions s'approche du lieu du cirque pour, comme vous l'avez sans doute lu, demander au cirque de se déplacer au centre-ville. On retrouve le cirque Vanzetti, le clown, la naine, ce sont les deux représentants, disons, qui sont pris par les personnes qui arrivent pour discuter et pour représenter le cirque, puisque Vanzetti, le fondateur du cirque, le propriétaire du cirque, n'est pas là. Et à la page 49, au deuxième paragraphe, le narrateur revient en disant « J'ai toujours été sensible à l'atmosphère de déroute. » Bon, il exprime son sentiment de plaisir, dans un sens, à cette atmosphère des cirques. Et surtout des cirques pendant la journée. Parce qu'en général, on va au cirque le soir, et donc il y a cette ambiance particulière avec les lumières où tout est dirigé vers la piste, hein, du cirque. Mais dans la journée, lorsque le cirque n'est pas en train de donner un spectacle, eh bien, c'est un autre spectacle, justement, qui s'offre, un spectacle que le narrateur considère comme le plus réaliste possible. Comme il le dit à la page 50, hein, à partir de la cinquième, sixième ligne, « De chaque détail émane le contraire triste du mensonge. » Le contraire triste du mensonge. Donc, c'est-à-dire la réalité est quelque chose de triste. Mais cette tristesse est agréable parce que c'est la réalité. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fiction. L'absence de mystère devient effarante. Rien n'alimente plus la mélancolie, les souvenirs et leur enfance. Donc cette tristesse qui fait plaisir, c'est aussi une définition de la mélancolie. Alors voilà donc la position, l'émotion du narrateur et juste une phrase après ce paragraphe qui montre bien le contraste. Cette atmosphère n'émue pas les visiteurs. Ce qui veut dire que ceux qui arrivent ne sont pas du tout sensibles à cette sorte de mélancolie, de tristesse un peu intellectuelle hein, que le narrateur a exprimée. Pas de finesse, on peut dire. Et on retrouve Balint Zagebel, puisque on reconnaît des éléments qui nous ont déjà été donnés, comme son costume, son attitude, etc. Sa coiffure lui donnait un aspect de rapace à aigrette, mais les rapaces de ce genre ne sont pas des oiseaux. Le cuir beige du manteau, sa qualité exceptionnelle, son grain luxueux, hein, c'est pas du cuir pas cher, l'appartenance à une race fort différente. Bon, et puis on reconnaît donc Zagebel petit à petit, également à la page 52, au milieu de la page à peu près, l'aigrette dressée, c'est-à-dire les cheveux, hein, il débitait son discours sur un ton impérieux de propriétaire en train de menacer d'expulsion un mauvais locataire. Il avait ouvert son petit carnet et il s'y reportait à bref coup d'œil, comme si les phrases qu'il lâchait pouvaient être suggérées par des abréviations ou des chiffres qu'il avait un jour, en prévision de cette minute, alignés. Donc on a trouvé le manteau, le carnet à spirale, ou le carnet en tout cas, et ça doit bien être Zagebel, ce qui est marqué ensuite, où est-ce que c'est marqué ? À la page 54, en bas de la page 54, après que tous les lecteurs l'ont bien reconnu, « Si Vanzetti proteste, vous nous l'enverrez, d'accord ?» gronda l'envoyé de la mort, l'envoyé de millions d'hommes et de femmes très ordinaires, le rapace, l'acteur, la vedette néo-réaliste, le chef frondiste, Balint Zagebel. Ce paragraphe, d'ailleurs, montre bien de quelle façon Zagebel concentre, condense, amalgame toutes ses personnalités. L'envoyé de millions d'hommes et de femmes très ordinaires. Il n'est pas le dirigeant, il est l'envoyé. Il est en mission, il est commis, représentant, envoyé par eux. Ou en tout cas, c'est ce qu'il fait croire aussi. Hein. Alors, je m'étais arrêté à la page 50. Et la réaction de Bakshir Kodek, c'était au milieu de la page 51, à peu près au milieu, dans un demi-sommeil, il avait pensé la mort. C'est la mort qui sonne du cor. Alors, on a déjà vu, hein, ce clown, Bakshir Kodek, il a la phobie de la mort. Et il a le courage de ne jamais montrer sa phobie de la mort. C'est ce qu'il va également faire dans cette situation pour rassurer un petit peu la naine qui est terrifiée, terrorisée. Il va se comporter dignement, refuser d'abord l'argent de Balint Zagebel, puis étant obligé accepter de les suivre pour aller quelque part. Hein. Il ne sait même pas où le cirque doit aller. Plusieurs fois, donc, on va dire que Zagebel est un rapace, à la page 50, et répété à la page 52, j'ai lu les deux passages. Et à la page 50, donc c'est en bas de la page, 6 lignes avant la fin, sa coiffure lui donnait un aspect de rapace à aigrette. Aigrette, c'est une petite touffe au-dessus, comme ça, de plumes. Il y a d'ailleurs une catégorie d'oiseaux qui s'appelle aigrettes, précisément parce qu'ils ont ce petit bouquet ou toupet de plumes blanches. Quand vous allez au métro, au JR Hidabashi, juste avant de monter vers le JR, Vous pouvez regarder à gauche, il y a le passage de l'eau hein, qui vient du canal. Et très souvent, il y a un oiseau blanc comme ça, avec des plumes, qui s'appelle une aigrette, un petit héron comme ça, qui habite là, il est toujours là. Voilà donc cet aspect de rapace. Et juste après, c'est ça qui m'intéresse maintenant, mais les rapaces de ce genre ne sont pas des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un rapace, je regarde dans le dictionnaire, c'est une catégorie d'oiseaux. Catégorie d'oiseaux qui a des serres, hein, des ongles comme ça, et dont la particularité en tant qu'oiseau, c'est un oiseau qui attrape très vite. Et rapace, ça vient du latin raptus, qui veut dire justement prendre rapidement. Et donc en français, on a aussi le mot rapte, qui veut dire enlever. Rapte d'enfant, par exemple. Ça veut dire enlèvement d'enfant. Donc le rapte, c'est le fait d'enlever quelqu'un avec violence. Qui est donc de la même famille, enfin famille, ou en tout cas origine, hein, même étymologie, que rapace. C'est pas raptus, hein, comme je disais, c'est rapax en latin. Rapax, R-A-P-A-X, qui se décline en rapacis, et le verbe rapere, qui veut dire enlever, justement, emporter. Voilà. Mais alors, quand j'ai regardé mon dictionnaire pour vérifier, c'est-à-dire que le texte m'a dit quelque chose qui était contre mes connaissances. Il m'a dit que le rapace ne fait pas partie des oiseaux. Alors je vérifie et le rapace fait partie des oiseaux. Donc ça veut dire que le texte me propose de, en quelque sorte, changer la définition du mot rapace ou du mot oiseau. Je ne sais pas très bien où on en est. Le texte va me proposer de modifier le sens des mots que je connais. Et justement, cette proposition va se répéter plusieurs fois. On va retrouver... où est-ce que c'est ? À la page 56. En bas de la page 56, avant-dernière ligne. Mais les alouettes ne sont pas des oiseaux. Donc, je vérifie encore dans le dictionnaire, hein, et les alouettes sont bien des oiseaux. Donc, stratégie, hein, le texte me propose de redéfinir le mot alouette. Alors finalement, je comprends que c'est plutôt le mot oiseau qui se trouve redéfini par cette succession de négations. Alors, il y avait les oiseaux et le régime politique de Champrouge propose de réutiliser ce mot oiseau pour autre chose. Et donc il faut dire, ce qui était pour vous jusqu'à maintenant des oiseaux, ne sont plus des oiseaux. Donc les rapaces sont des rapaces, les alouettes sont des alouettes, et il y a autre chose qui s'appelle les oiseaux. Et c'est une population, les oiseaux, qu'il faut considérer comme une population néfaste, étrangère, mauvaise, nuisible, que nous allons essayer de débarrasser. Alors là, je résume un petit peu hein, d'autres choses, mais c'est le résultat de ces propositions. Il doit y en avoir une troisième quelque part, à la page 61, donc à la fin de la première partie. Il s'agit de Ragogine qu'on a trouvé à côté du cirque. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais il a eu tort. Hein. Ragogine était là. Lorsqu'il rouvre les yeux, il n'est pas mort, mais il n'est pas non plus entouré par ses congénères, c'est-à-dire par des oiseaux. Des ombres bien bâties l'encerclent et se dandinent. Ce sont des gros bras frondistes qui étaient dans les camions. Mains dans les poches, comme des manchots. Mais les manchots ne sont pas des oiseaux. Alors, il referme les yeux. Alors les manchots, ce sont des pingouins. Hein, vous les connaissez, les pingouins, une variété, une race de pingouins qu'on appelle les manchots. Parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de bras. D'ailleurs, ce n'est pas des bras. À l'origine, ce sont des ailes. Bon. Et donc, les manchots ne sont pas des oiseaux. Hein, c'est la troisième fois qu'on retrouve cette expression. Quelque chose ne sont pas des oiseaux. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de répéter un message pour que le lecteur perde l'habitude de nommer telle catégorie oiseau, parce que on veut réserver le mot oiseau à autre chose. Alors, il faudra que je vous rapporte les références parce que je ne les ai pas dans ma tête actuellement. Une étude a été faite, ou des études ont été faites sur le langage nazi pendant la propagande nazie, c'est-à-dire depuis les années 30 jusqu'à la guerre et pendant la guerre, pour montrer comment, petit à petit, dans leur discours, les nazis essayaient de redéfinir des mots. Et donc des études ont été faites dans ce domaine, et là j'ai pas ça dans ma tête. Donc je rechercherai, et je vous le dirai la semaine prochaine, c'est très très intéressant de découvrir en effet comment ça s'est fait historiquement, avec des documents comme ça, de base. Mais on se trouve devant la même stratégie. Je pense qu'on trouverait ça ailleurs, hein, pas seulement dans ce cas-là. Je suis arrivé à la page 56 avec les alouettes. Alors on va voir que petit à petit, les expressions dans lesquelles se trouvent des oiseaux, tel ou tel oiseau, vont se reproduire, vont se répéter. Et on va pouvoir faire petit à petit une liste d'expressions avec des oiseaux. Alors je crois que Volodine a bien préparé son coup. Il a dû rechercher beaucoup d'expressions avec des oiseaux et ensuite se demander comment il allait pouvoir les utiliser dans le texte, avec toujours la volonté de rechercher un double sens, une sorte de piège du langage, qui ira évidemment dans le sens négatif, hein, utilisé par l'homme politique et le dirigeant populiste Balint Zagebel. On pourrait voir ce genre d'expression déjà à la page 54, le deuxième paragraphe. Apparemment, Bachir Kodek n'a pas très bien compris la proposition de l'homme à manteau de cuir, hein, qu'il n'a pas encore reconnu, et il a commencé par refuser. Bachir Kodek refuse en disant « Ah, mais je ne peux pas, Vanzetti n'est pas là, etc. » Et l'autre lui dit « Mais vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le choix, et est-ce que vous savez qui je suis ?» Hein, donc, ça se manifeste comme ça. Donc, deuxième paragraphe, il y eut un instant de flottement, de stupéfaction et de flottement. Puis, le rapace décolla. Décolla, hein, commence à s'envoler. De ses gencives, les lèvres modelant une lippe ironique, important, hein, le ironique, lippe, c'est la lèvre, hein, et siffla. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Qu'est-ce que c'est que ce moineau-là ? Donc, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Eh bien, justement, c'est un cirque. Mais, en français, on utilise aussi l'expression « c'est le cirque » ou « qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» pour montrer quelque chose qui est dans le désordre. Une pièce en désordre, une situation en désordre, on va dire « ah, mais c'est le cirque ici, quel cirque ?» Ça veut dire « quel désordre » ou, plus vulgairement, « quel bordel ». Nettoyez-moi ce cirque. En anglais, « clean up the mess ». Nettoyez le désordre. En français, donc, le mot « cirque » va servir dans cette expression. Ce qui veut dire que, ici précisément, c'est un cirque, le cirque Vanzetti. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? a automatiquement un double sens. C'est un trait d'esprit au sens où Zagebel pense, lorsqu'il est devant un cirque, à utiliser le mot cirque à double sens. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est-à-dire, quel est ce cirque qui n'obéit pas? Et qu'est-ce que c'est que ce désordre de quelqu'un qui ne comprend pas la situation ici? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ce moineau-là? Donc moineau, petit oiseau, qui ne comprend pas la situation. Donc un homme, le clown Bachir Kodek, est dénommé comme s'il était un oiseau. C'est-à-dire, il est dévalorisé, déshumanisé. Et juste à côté, son compagnon pouffa méchamment. Hein, donc vous imaginez Zagebel, et puis à côté il y en a un autre qui commence à rire comme ça, de façon méchante. Hein. Ça fait peur. Hein. Et en même temps, on voit très bien associé à ce méchamment, hein, pourquoi c'est méchamment? Il montrait une obséquiosité rigide de tueur professionnel et contemplait Bachir comme s'il allait sous peu extraire de son manteau un pistolet et le décharger sur tout ce qui était vivant dans la roulotte. Donc là, on sent bien la menace, hein, la menace de celui qui possède le pouvoir et va l'utiliser de n'importe quelle façon. À la page 55, Zagebel explique en effet pourquoi il n'y a pas de choix pour Bachir Kodek, et il explique d'une façon très positive, c'est-à-dire, nous allons organiser une belle fête, on vous paye très bien, on vous achète toutes les places, donc vous ne pouvez pas du tout dire qu'on vous force. Qu'est-ce qu'on veut? Donc dans trois quarts d'heure, on emmène tout. Je veux des jongleurs, des clowns, des équilibristes, des cracheurs de feu, vos monstres et votre orchestre. La culture populaire, comprenez, on se fiche de Vanzetti, on vous nomme responsable. Vous m'avez reconnu? C'est ça qui est important, hein? Vous m'avez reconnu, c'est-à-dire vous savez qui je suis. Vous comprenez que vous ne pouvez pas dire non, vous ne pouvez pas résister. Vous m'avez reconnu? Oui? Alors, pas de problème. On démarrera d'ici dans trois quarts d'heure. Voilà donc comment la terreur s'exerce. Ici, on est précisément dans la définition du mot « terreur ». On n'a pas sorti d'armes, on n'a pas tapé sur quelqu'un, on n'a utilisé que des mots, mais une attitude, les mots choisis, hein, qui ont exercé automatiquement une terreur sur les personnages. On arrive à la page 56. C'était... Ah oui, ça, après la situation... À propos de la naine. Et bon, en passant par la naine, on en vient à une sorte de définition du frondisme. Hein, c'est écrit ici à la quatrième ligne. Elle seule connaissait sa définition du frondisme. La définition selon Bachir Kodek. Qu'est-ce que c'est le frondisme? C'est quand tu es battu devant une foule et que tu tombes et que la foule rit aux larmes. Donc évidemment, c'est la position du clown, hein, du clown qui est toujours moqué par la foule, et c'est son rôle. Et bon, je pense que tout le monde connaît par la littérature, par le cinéma, le personnage du clown triste. Hein, c'est, il est complètement triste et ça fait rire tout le monde. Donc on imagine que pour lui, c'est une solitude extraordinaire. Et ça recommence tous les jours, parce que c'est son travail, précisément. Donc le frondisme, c'est ça, une sorte de définition par l'exemple. Le frondisme ne se tissait pas à partir de quelques chefs malveillants. Ça, c'est pas la définition, c'est une explication qui vient après par le narrateur. Ne se tissait pas à partir de quelques chefs malveillants, il était une expression naturelle de la foule. Là, on revient aussi à la nature de Balin Zagebel, qui n'est pas le chef, mais un envoyé ou un représentant, une émanation, quelque chose qui sort, qui vient de la foule, du peuple. Donc, il était une expression naturelle de la foule. Il va de soi que le frondisme était bien autre chose encore. Et au paragraphe suivant, autre expression à base d'oiseau, le frondisme est aussi un miroir aux alouettes. Alouette, petit oiseau qu'on peut manger d'ailleurs. Et miroir aux alouettes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le dictionnaire, on explique que c'est une sorte d'appareil avec des petits miroirs qui vont faire peur aux alouettes à cause des reflets de lumière qui sont envoyés, et les alouettes vont s'envoler et on va pouvoir les tirer ou les faire fuir, selon le cas. Donc, un miroir aux alouettes, c'est une sorte de piège de quelque chose qui est attirant. La lumière attire les alouettes, comme on dit aussi pour les oiseaux qui volent des bijoux. Quoi c'est trésor? Un oiseau qui vole des bijoux. Parce que c'est brillant. Et donc il vient comme ça, il vole. Moi je le retrouverai. On le reverra, il doit être dans le livre quelque part, cet oiseau-là aussi. Et donc, à la suite de cette utilisation de miroir aux alouettes, les alouettes ne sont pas des oiseaux en bas de la page. On revient à la page 57, à un personnage qu'on avait un petit peu oublié, et qui est le frère Amir Bekian, Bienno. Bienno Amir Bekian a maintenant été recruté par les frondistes. Alors, Bienno, c'est le frère de celui qui sort de prison. Ce frère est venu à la ville dans le but d'essayer de retrouver son frère, de le faire sortir de prison, de le faire évader, mais il n'a pas bien réussi. Il a dépensé son argent, il a un peu perdu son idée. Et il a été recruté par des frondistes. Il était lui aussi à la campagne, il vient de la campagne, donc il est séduit par les gens de la ville. Et à la page 57, donc au milieu du premier paragraphe, voilà un garçon éduqué par des pères qui lui apprennent les ficelles du métier et gravent sous son crâne l'amour des terres sans frontières. La haine des barrières, barbelées ou non. Un bambin bercé par des mers qui fredonnent au-dessus de lui des hymnes de liberté où sont brocardés les riches possédants, les puissants de la ville et de la campagne. Dès son plus jeune âge, il sait qu'une honte irréparable accablerait le clan si l'un de ses membres allait s'engager du mauvais côté dans une bande armée au service des propriétaires. C'est une sorte de lutte des classes, en quelque sorte. Lorsqu'on fait partie d'une classe, on a sa culture de classe, on sait qu'on ne peut pas, enfin on ne doit pas passer dans la classe de l'autre côté, ici qui est nommé le service des propriétaires. C'est dans cette culture, dans cette famille, que Amir Bekian, les deux frères d'ailleurs, ont été élevés. Et cependant, Bienno a été recruté par les frondistes. Il est devenu maintenant un membre frondiste. Et c'est ce que l'on nous explique à la page 58, au premier paragraphe. À la fin d'avril, un ivrogne l'invite à une réunion d'arrondissement. Il y va sans réticence car il estime que frayer avec les frondistes, frayer ça veut dire aller avec eux, faire des trucs ensemble, l'aidera peut-être à éclaircir ses plans pour l'avenir. Il pense à l'évasion de Matko, son petit frère. Mais ce qui frappe surtout quand on l'observe, c'est que sa tête est vide. Alors, il avait une idée comme ça, je vais aller avec les frondistes. Vous savez, c'est comme les infiltrés, on dit dans la police. Un policier va infiltrer la mafia. Alors pour infiltrer la mafia, il faut être comme les autres. Il faut faire partie de la mafia. Et on va donner des informations à la police, mais D'abord, il faut se comporter comme les autres de la mafia. C'est ça qu'on appelle infiltré. Alors, il a cette idée-là, mais en fait, sa tête est vide. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Voilà donc Bieno Amirbekian qui pénètre dans une permanence. Il s'enthousiasme avec la salle, applaudit et braille avec elle, chevauche avec elle ses griefs troubles, sa virulence. Voilà Bieno Amirbekian, adopté par une section du parti, ami de la police, bénéficiant aussitôt des avantages fournis par le réseau de solidarité frondiste. Son allure de cavalier épique joue en sa faveur. Des responsables en imperméable le remarquent. Moyennant des concessions esthétiques mineures, on lui propose une embauche. Trop heureux de se voir promu au sein du corps d'élite, il n'hésite pas à couper sa moustache. Pour certains gros coups, il a pour chef direct Balint Zagebel en personne. Le voilà, Bieno Amirbekian, fier de l'image que renvoient de lui les miroirs de la camaraderie avec Brassard. Le soleil est éclatant, tout flamboie. Hein, on retrouve la définition de miroir aux alouettes, justement. Le miroir de sa nouvelle personne, belle personne, hein, maintenant. Et donc, le soleil est éclatant, tout flamboie. Hein, il est dans une très belle situation. Il est piégé dans le miroir aux alouettes du frondisme. Bieno ricane près du camion qui a déversé dans le quartier des docks une patrouille de salubrité. Une belle journée, ce 27 mai. Une grande manifestation populaire aura lieu en soirée, et Bieno déjà y tient sa place. À défaut de chevaux, le voilà qui capture des oiseaux. Chevaux, oiseaux, c'est amusant, hein ? Ça fait rire tout le monde, c'est normal, c'est une boutade, au sens tout à fait zagebelien. Ou zagebelliste, si vous voulez. À défaut de chevaux, le voilà qui capture des oiseaux, sans lesquels le spectacle offert aux masses risquerait de manquer de saveur. Et celui qui traîne vers les caisses, on l'attrape ? Interroge quelqu'un. Celui-là, sous sa belle capote, ses plumes d'oisal et peau de négu, répond son compagnon. Et tous éclatent de rire. Bieno se tire-bouchonne, Bieno Amirbekian. Un beau frondiste. Voilà donc comment on devient frondiste, alors qu'on était tout à fait de l'autre côté. C'est possible, ça arrive. Le changement de culture, le déracinement, la pauvreté, l'absence de but particulier, de moyens particuliers, et automatiquement, on passe dans ce camp. Alors, il y a beaucoup de romans, de films français qui raconte comment un jeune homme qui n'était pas destiné à être collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale en France devient ce qu'on appelle un collabo ou même un milicien. Par exemple, le film de Louis Malle que vous connaissez sans doute qui s'appelle Lacombe Lucien, qui est un beau film de Louis Malle, raconte exactement ça, comment un jeune homme, qui pouvait être tout à fait résistant, communiste ou n'importe quoi, devient milicien au service de l'occupant. C'est une sorte de cliché, hein, presque, hein, la situation ici d'Amirbekian. Et alors, cette expression, hein, c'est-à-dire on a plusieurs frondistes là ensemble, et quelqu'un interroge, et celui qui traîne près des caisses, vers les caisses, on l'attrape ? Et la réponse de l'autre, celui-là, sous sa belle capote, ses plumes d'oiseau et peau de négu. Donc, une moquerie, hein, adressée à quelqu'un, une moquerie insultante. Est-ce que on comprend très bien d'ailleurs ce que ça veut dire, plume d'oiseau ? Bon, oiseau, oiseau. C'est-à-dire le mot oiseau est transformé. Hein, on s'amuse avec le mot. Tout le monde s'amuse avec les mots, hein, les enfants aussi. Mais là, c'est quand même en désignant quelqu'un. Donc celui-là, c'est plume d'oiseau. Donc il a des plumes et peau de négu. Négu, on entend nègre. Hein, là aussi, un jeu, une déformation. Alors ça aussi, c'est classique de la haine entre des groupes nationaux, régionaux ou religieux. On va utiliser les mots et on va les déformer, on va les dévaluer, les dévaloriser en les cassant, en leur donnant une sonorité désagréable ou amusante. Plume d'oisal et peau de négu. Hein, on sent quelque chose de désagréable dans ces expressions. Et tous éclatent de rire, et voilà maintenant comment il est, Bienno Amir Bekian. Alors, c'est Ragogine, hein, celui dont on parle, c'est Ragogine, l'oiseau qui se cache dans un petit appartement détruit en haut d'un immeuble, c'est lui qu'on a vu la semaine dernière. Et alors, ce Ragogine, il est là, oui. Ce tire-bouchon, ça veut dire se tord, au sens du tire-bouchon, vous savez, le tire-bouchon, comme ça. Et donc, l'idée ici, c'est se tordre de rire, tellement ça le fait rire, il se tord, et d'une façon exagérée, comme un tire-bouchon. Donc, c'est une sorte de métaphore d'exagération du mouvement de se tordre de rire. Donc l'expression se tordre de rire, ici reprise exagérément avec cette métaphore tire-bouchonné.
Je n'utilisais pas ce mot-là.
Non. On peut dire que quelque chose se tire-bouchonne, c'est-à-dire se tord comme ça, mais c'est très très rare. Et au sens de rire, je ne crois pas l'avoir entendu. Donc, en ce sens-là, c'est une métaphore nouvelle. Merci de le souligner, parce que parfois je passe à côté. Il y en a tellement. Voilà. Et à la page 60, donc Ragogine était reparti dans son rêve, hein, son rêve bleu. Le bleu, ici, est la thématique du rêve de beau pays et de retrouver les siens. Et donc il imagine, il rêve, mais évidemment, ce qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'il se réveille, ce ne sont pas des oiseaux qui sont à côté de lui, malheureusement. Page 59, j'ai raté un autre mot que j'ai lu tout à l'heure. En haut de la page 59, la deuxième ligne, une patrouille de salubrité. Alors ce mot salubrité est intéressant parce que il est très souvent utilisé par les politiques autoritaires, de type dictateur, au sens où salubrité, ça vient de santé. Hein, donc la santé publique, la salubrité ou l'hygiène. Alors pendant la Révolution française, le comité de salut public, mais il y a également des comités de salubrité, des comités de salubrité publique, bon, il y a beaucoup de sortes, qui utilisent toujours le même terme de salubrité, visant à nettoyer, hein, c'est du nettoyage. Alors maintenant, on parle beaucoup de nettoyage ethnique, donc de l'ethnie, hein, de l'ethnos, c'est-à-dire, surtout l'expression est apparue au moment de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Donc dans les années 90, justement, peut-être un rapport avec Volodine, en effet. Ce qui était la Yougoslavie, c'est-à-dire un satellite soviétique qui était écrasé par le pouvoir soviétique, lorsque ce pouvoir soviétique disparaît ou se retire, les différences entre des groupes ethniques et religieux de cette région vont littéralement exploser. Et c'est la Serbie d'un côté, la Croatie, le Monténégro, enfin, comme ça plusieurs acteurs qui se font la guerre pendant plusieurs années avec des massacres. Et au moins, ou peut-être d'abord du côté serbe, l'affirmation politique très claire d'une volonté de nettoyage ethnique. Hein, l'expression est vraiment apparue très, très fortement à ce moment. Thank you. Voilà, voilà donc pour le nettoyage ethnique. Et donc cette patrouille de salubrité, c'est pas pour nettoyer par terre avec un balai. Hein. C'est une autre sorte d'hygiène, une hygiène au sens ethnique, au sens social aussi. Voilà pour finir avec cette première partie. La suite, donc c'est la deuxième partie, c'est la soirée. Donc quelques heures séparent l'après-midi de la soirée, ou même rien du tout, hein, ça se touche hein, entre l'après-midi et la soirée. Et on arrive à la page 65 avec le narrateur qui reprend la parole et qui dit « Je devais passer prendre ces gels Dojna Maji Jamalian ». Encore un autre nom un peu difficile à prononcer. Vous pouvez vous entraîner à la maison. Maji Jamalian. Et Dojna, donc alors on va raconter l'histoire un peu avec des relations anciennes, un amour. Ça c'est un cliché à l'intérieur des œuvres de Volodine. Dans différents livres d'Antoine Volodine, on va retrouver cette notion d'amour perdu. Et de femmes que l'on cherche à retrouver, que l'on retrouve ou que l'on cherche à retrouver, et qui dirigent la relation amoureuse. C'est-à-dire, elles dominent l'homme ou l'amant dans la relation amoureuse, et c'est elle qui choisit le moment où on peut faire l'amour, le moment où on peut être ensemble, etc. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc, on le retrouve ici, pour moi, ça n'est pas étonnant. Et leur projet d'aller au concert. Hein, et puis donc, dans les pages qui suivent, lui aussi découvre des hommes en gabardine, trench coat, des camions qui sont garés dans les rues et l'organisation qui commence à se mettre en place pour préparer ce spectacle de la soirée. Alors, la semaine prochaine et la semaine suivante, il nous reste deux séances pour justement développer les deux parties de ce spectacle, ou plutôt les trois parties de ce spectacle. La mise en place sur la place du théâtre et en même temps l'entrée des spectateurs du concert. Hein, ça va venir ensemble. Deuxième partie, le commencement du concert qui semble se dérouler bien. Et troisième et dernière partie, tout tourne à la catastrophe, hein, avec le concert qui est interrompu, les violences qui commencent, et puis on fait sortir les gens pour devenir une autre partie du spectacle de cirque qui se trouve sur la place. Donc, au moins pour que l'on puisse bien comprendre ce que nous essaierons d'expliquer la semaine prochaine, je souhaiterais que vous puissiez finir la lecture complètement, et pas seulement les pages que je vous avais proposées, de façon à voir exactement ce qui se passe. Hein, donc ça n'est pas très long, et vous pourrez vous rendre compte bien de la situation. Voilà, on est arrivé aujourd'hui dans l'action. Merci à vous et préparez des questions, hein, toujours de vocabulaire ou d'autres choses si vous en avez besoin.